Je vous les présenterai sur 5 points. Je n'ai pas de PowerPoint, mais c'est presque ça. D'abord, une petite définition sur ce que j'entends comme addiction, comment on peut la penser rapidement. Puis, quelques réflexions sur le champ du jeu, parce que c'est quand même des jeux vidéo, y compris par ordinateur. Quelques réflexions sur l'image, puisque cette addiction, ces jeux concerne particulièrement l'image, le traitement des images, ou l'importance de l'image pour chacun de nous. Puis, on avancera un peu plus sur la notion du virtuel, et je reviendrai donc sur la notion de l'addiction à l'image et au virtuel. Pour être plus près du sujet d'aujourd'hui, mais il faut faire un peu ce parcours. Donc, addiction, le mot nous vient de l'anglais, et qui veut dire, en gros, dépendance à un produit. Mais il a une valeur plus positive en anglais, je le disais ce matin, je l'ai fait bref, que vous trouverez aujourd'hui, des fois même très mise en valeur au niveau de la publicité, quand quelqu'un dit qu'il est addict à un produit, ça donne une grande valeur au produit. Vous avez dû peut-être déjà l'entendre dans diverses publicités. Voilà le mot addiction. Donc quelque chose qui concerne la dépendance à un produit, à plus qu'un produit sans doute. Je dirais des mots par la suite. En France, on emploie le mot toxicomanie, dépendance. Brièvement encore, cette notion donc de la dépendance dépasse, ou de l'addiction, dépasse la notion du produit ou des produits. Elle est beaucoup plus large. Il nous faut dire un mot sur la notion du produit, dans la mesure où ça se présente toujours comme ça, et que ces notions de toxicomanie ou de dépendance, c'est des notions qui concernent les sociétés développées. Les parcours technologiques vont faire voir cela, justement. Que la notion de la toxicomanie, on est habitué aujourd'hui, on pense que c'est un phénomène général. Mais si vous aurez l'occasion de visiter quelques peuples, non pas primitifs, mais qui sont plus traditionnels, les peuples plus reculés du monde, ils ne sont pas concernés par la question. Si on fait marche arrière sur le plan de l'histoire, notre propre société n'était pas concernée par la question. C'est une question qui a pris progressivement de l'importance après les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, avec le développement de nos sociétés sur un versant d'abondance, on peut dire. Sur un versant où les produits, justement, ont pris une grande place dans notre vie. On ne fait plus attention aujourd'hui, on est habitué, mais pour peu qu'on prenne du recul, on a besoin aujourd'hui, ils sont devenus des besoins, et on ne peut pas faire autrement, tout le monde est à un rythme, d'énormément de produits, d'objets. Bien, on pourrait s'attarder beaucoup sur la question, les objets, en quelque sorte, ils nous imposent aussi leur vie. Et il y a des penseurs qui ont pensé qu'ils nous obligent même à penser comme eux. Ils nous amènent un style de pensée, en quelque sorte. Des penseurs qui datent comme Deleuze et Guattari. Ou un sociologue anglo-américain qui s'appelle Christopher Lash. Je ne vais pas rester beaucoup sur la question, mais c'était pour dire que la question de la toxicomanie est aussi liée à cette dimension sociale de notre société où les produits, les objets ont pris une grande place sans qu'on y fasse attention maintenant. Et qui, du coup, comme ils ont pris une grande place, on a tendance, sans bien faire attention non plus, de s'en servir, même des fois, dans une fonction relationnelle. Par exemple, vous avez dû le voir, ou même le vivre. Quelquefois, je parle de petits enfants là, on verra plus tard chez les adolescents, eh bien, on peut les mettre devant la télé pour voir un film. Et on le laisse tout petit, tout seul. qu'on pense que c'est bien, ça passe du temps, ils s'amusent, et on ne les voit pas avec eux. Vous voyez, une petite là, facilité pour beaucoup de parents, on peut le comprendre, on est même à leur place souvent, et que, bousculé par d'autres choses, effectivement, eh bien, que l'enfant prenne un petit plaisir tout seul, et lui, il fait autre chose à ce temps-là, pressé par la vie, justement, dans laquelle nous sommes. Mais voilà qu'un objet, donc là, la télé en l'occurrence, une vidéo, vient faire une fonction. Pour cet enfant petit, en fonction d'accompagnement, de l'apaiser, de le distraire. C'est plus un adulte qui est avec lui. Cette sorte de présence des objets, qui était donc réfléchie par plusieurs personnes, hein, et j'ai évoqué Christopher Lasch, celui justement, il a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps, que je recommande à lire, ça s'appelle « Le moi assiégé ». Le moi assiégé justement par les objets. Et cet assiégement, si je peux me permettre ce mot, du moi, de la personne, hein, du sujet humain, par les objets, qui apparemment, bien sûr, et vu de loin, donne l'impression d'une sorte d'abondance, d'autonomie, on peut faire ce qu'on veut, on a tout chez soi, on entend ça aujourd'hui, hein, j'ai tout ce qu'il faut, pourquoi je veux mal, disent les personnes. Effectivement, cette notion, alors, on pourrait dire sur l'être et la voix, y compris les films qu'on a vus, mais plutôt, disons, que cette sorte d'articulation de la vie avec les objets et de la présence de plus en plus indispensable des objets, et malgré cette notion d'abondance et de bien-être qu'ils peuvent offrir, eh bien, en arrière-plan, le souci d'avoir tous ces objets rend pousse quelque sorte les sujets, nous, sans qu'on se rende compte, vers une sorte de fonctionnement de survie. On peut rigoler avec ça, vu de l'extérieur. Mais les objets prennent cette importance et on ne peut pas survivre sans eux, en quelque sorte. Et donc le livre que j'invite de regarder de Christopher Lasch va dans cette direction. Il compare même cette dimension de survie dans laquelle les moi, nous, nous sommes, comme proches de la survie, de la problématique, disons, des survies, dans laquelle se sont trouvés les gens, les personnes qui étaient en camp de concentration, qui étaient, qui sont toujours, parce qu'il y en a toujours qui se reproduisent ces camps de concentration, mais particulièrement à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà quelque chose qu'on ne voit pas derrière cette notion d'abondance. À laquelle nous sommes bien. La présence de l'objet. Et cette présence de l'objet dans la famille, j'évoquais cette dimension donc au sens social, dans la famille, donc elle vient faire des fonctions dans la famille, j'ai évoqué l'exemple de la télé pour le petit enfant, on y reviendra sans doute, et d'autres exemples auxquels non plus on ne fait pas attention. Et celui que j'ai en tête, parce que, comme je suis pédopsychiatre, je suis aussi amené à avoir de petits enfants, de bébés, avec leurs parents, ou de plus grands. Et ce qui se fait très couramment aujourd'hui, enfin très facilement en tout cas, sans que les parents réfléchissent, dès qu'un enfant dort un peu mal, on met une veilleuse, on la met même avant qu'il dorme, on met un veilleur. Donc on a la veilleuse comme un élément qu'on trouve facilement en commerce. Et cette notion d'une présence lumineuse dans la chambre des enfants, bien, devient naturel, ça facilite la vie, bien sûr, l'enfant dort mieux, et les parents aussi, et on est tous tranquilles. Si ce n'est que c'est une solution pour les difficultés du sommeil qui ont à peu près naturellement tous les petits-enfants, puisqu'il s'agit de des inquiétudes d'insécurité, eh bien, c'est une réponse, une fausse réponse, on pourrait dire, sur un vrai problème. Le vrai problème, c'est les inquiétudes, l'insécurité qui a normalement, comme je disais, le petit enfant qui va aller la nuit, disons, dans la nuit du sommeil, tout seul. Il est inquiet et la question qui sont dans sa tête, sans qu'il puisse se poser comme je le dis, c'est qui m'accompagne, comment je suis sécurisé. Eh bien, si on lui met la lumière pour l'accompagner, où notre parent laisse le biberon à côté de son lit. Comme ça, dès qu'il se réveille, il prend la maison, il s'endort. Vous voyez, il remet des objets. Qu'est-ce qui dit l'objet, en quelque sorte, à l'enfant? Qu'est-ce que comprend l'enfant par l'objet? Que ce soit la veilleuse ou le biberon, il comprend qu'il y a trop de danger dans sa chambre, il faut le faire partir par ses moyens techniques, le danger dans le noir, d'où le fait qu'on parle de la peur du noir. Alors que contre ces dangers, lui-même ne peut rien faire, il ne peut pas compter à ses parents, qui sont à côté, ou à son parent, enfin, les personnes qui sont à côté. Il n'y a pas toujours deux parents aujourd'hui à la maison. Et alors la seule chose qui lui reste à laquelle il peut compter, c'est la veilleuse, le biberon, qu'il peut utiliser à volonté. C'est lui qui disposera de cet outil qui va faire une notion de présence perceptive. Vous voyez qu'il le sent, la lumière, il perçoit le biberon, bien sûr. Au niveau de ses sensations, ça va faire une fonction d'une présence. Mais une présence qu'il dispose, lui, comme il veut, quand il veut, et en même temps, qui veut dire qu'il n'adresse rien aux autres, il ne fait plus de demandes, et qui, ce qui cache, disons, ce qui n'aborde pas tout ce contexte dont je parlais, de peur et de méfiance. Donc, voyez bien que tout un ensemble de peur et de méfiance vont être traités par un objet. Et elles sortent de relation. Par un objet qui produit des sensations, qui produit des perceptions. Et voilà donc le petit enfant qui va se trouver déjà dans une problématique où il pourra utiliser des objets à la place des relations, comme réponse qui lui était nécessaire du côté relationnel. C'est un exemple, on y reviendra sur cette histoire donc de perception. Et gardons donc, pour le premier point dont je parlais, gardons cette définition des addictions, toxicomanie, dépendance, comme la tendance qui se développe dans certaines personnes, sans bien qu'elles se rendent compte, de produire au niveau de leur perception une présence agréable, calmante, apaisante, accompagnatrice. On pourrait garder ça comme définition des addictions. La tendance d'autoproduire, autoproduire. Je fais moi-même cela quand je veux. Bien sûr, il me faut ces produits-là. Mais en tout cas, ça ne dépend que de moi. Il faut trouver des combines pour avoir le produit, bien entendu. Vous voyez cette relation qui se ferme entre un produit et moi, dont, bien entendu, je deviens dépendant. Et, en quelque sorte, les produits décident beaucoup de choses pour moi. Mais c'est plutôt pour garder cette notion d'une présence. Présence qui ne peut pas être absente, du coup. Je ne peux pas être absent psychiquement, je ne peux pas imaginer quelqu'un. Hein, je l'ai tout de suite là, je le sens, je le perçois. Et le petit bébé qui dort avec la veilleuse, même en dormant, et si vous avez fait l'expérience, vous serez d'accord avec moi, à travers ses paupières, il perçoit qu'il y a une lumière, il perçoit quelque chose, et quelqu'un qui chasse le noir, chasse l'obscurité. Donc quelqu'un qui est toujours là. Vous voyez cette notion, l'addiction, c'est quelqu'un qui est toujours là, quelqu'un qui ne peut pas s'absenter. Alors que tous les fonctionnements psychiques et mentales, pour se faire, ne peut se faire qu'avec cette notion d'absence, c'est-à-dire de pouvoir avoir en soi toute une série de représentations des absents, bien sûr de personnes concrètes, familiales, mais de plein d'autres absents, et de plus en plus des notions qui elles-mêmes, des notions abstraites, hein, qui sont elles-mêmes sous forme d'absence, c'est-à-dire des notions d'institution, des notions de concept, on ne peut rien y mettre dessus comme perception, comme sensation. Donc tous les fonctionnements psychiques ne peuvent se faire que autour de ce jeu, d'accord, ces gens de présence sensorielle, mais qui laisse ouvrir, disons, de plus en plus la dimension de l'absence ou de l'absentement. Voilà, gardons ça comme définition de l'addiction toxicomanie. C'est important d'avoir cette base pour y revenir plutôt vers la fin de mon propos sur ce qui concerne la vidéo et les ordinateurs, disons, le web ou le net, selon les appellations. Alors, deuxième donc, notion qu'il faudra aborder rapidement, c'est autour de jeu, parce que c'est quand même, on est dans le monde des jeux. Et loin de dire, et c'est très peu de monde qui est concerné par la notion de l'addiction à la vidéo, à l'ordinateur. Ces jeux sont parmi d'autres jeux et ils font la fonction de tous les jeux, disons, d'enrichir notre vie. Il ne faut pas les prendre comme des diables dangereux dont il faut se méfier. Ce n'est que dans certains cas donc, où cela devient un mésusage. Au début, il faut garder cette notion du jeu, qui est très importante. Et le jeu, historiquement, eh bien, il change. Il change parce qu'on ne jouait pas de la même manière il y a 2000 ans. On avait d'autres jeux qu'on a inventés sur le coup. Et d'autres jeux aujourd'hui, et sans doute dans quelques années, il y aura encore d'autres jeux. Les outils, en quelque sorte, changent. La notion du jeu garde quand même quelques paramètres qui sont intemporels, qui sont les mêmes, qu'on soit à l'an 2009 ou qu'on soit à l'an moins 2000, peut-être, 9. Je pense que le jeu avait toujours les mêmes fonctions sur le plan humain, sur le plan psychique, sur le plan relationnel. En gros, quelle fonction il a, le jeu ? Rapidement aussi, ce n'est pas notre sujet principal. Pour les petits enfants qui commencent à jouer très tôt, on a commencé à le remarquer, c'est essentiellement l'inventeur de la psychanalyse qui a fait ces remarques, à l'époque on ne s'intéressait pas beaucoup aux enfants, en observant son petit-fils qui jouait avec une bobine et qui jouait avec, sur les mots allemands, de faire disparaître et de faire apparaître la bobine en disant fort, qui veut dire loin, da, c'est-à-dire voilà, il est là, il est prêt, je le vois. Donc il faisait apparaître, disparaître une bobine. Et donc Freud, c'est le nom de l'inventeur de la psychanalyse, eh bien il a essayé de comprendre, d'observer un peu plus, et il a compris que ce que jouait l'enfant, le petit, hein, c'était la notion de l'absence de sa mère, qui le travaillait, pour le dire, tout enfant est inquiet quand on parle de là, va qu'il va venir. Mais on a découvert ça plus tard, ces inquiétudes d'absence de présence. Et donc, en faisant disparaître la bobine, il faisait disparaître sa mère, il le faisait revenir, sous forme de la bobine, bien sûr. Mais c'était, en quelque sorte, du fait que, sur l'absence de sa mère, il ne pouvait rien faire. C'est elle qui partait quand elle avait du travail à faire. Mais en rejoint, et vous voyez tous les jeux que font les enfants au docteur, qui fait des piqûres, etc., bien en rejoint la scène, il allait vers un mouvement de la maîtriser, que lui-même il puisse avoir quelque chose à faire dans la scène, de ne pas la subir passivement. Donc les jeux, tous les jeux, même tout ce que nous faisons nous, mais on ne les voit plus, ont comme cette première composante de basculer de la passivité vers l'activité, vers la maîtrise, hein, qu'on ait quelque chose à faire, qu'on a un petit mot à dire, un rôle à jouer, soi-même, et tous les jeux, ils ont cette composante principale. Alors ils ont plein d'autres composantes, je vous les lis rapidement, tous les jeux, hein, on découvre rapidement, quoi qu'on fasse, tous les jeux, disons qu'il faut distinguer une notion de cadre, qu'on pourrait appeler aussi contenant, une notion de contenu. Forcément, dans le contenu, il y a plusieurs objets, plusieurs, peu importe quels sont les objets, que ce soit des petits bonhommes, des Playmobil, que ce soit dans un jeu vidéo ou ailleurs, bien, il y a des interactions. les interactions des personnages, des rôles, et des règles, forcément, et des lois. On ne peut pas éviter toutes ces questions qui sont automatiquement amenées, introduites par un jeu. Bien sûr que la dimension principale des jeux, c'est le plaisir. On joue pour prendre plaisir. On est attiré vers le jeu pour prendre plaisir. Mais le plaisir principal dans le jeu, c'est ce qui se passe par rapport au partenaire du jeu. C'est le plaisir principal. Ce n'est pas avec l'objet lui-même. L'objet vient rappeler la scène, en quelque sorte. Mais pour l'essentiel, c'est, on pourrait dire, des demandes, des désirs adressés à l'autre, quel qu'il soit comme partenaire proche de l'enfant, proche de chacun de nous. Et à travers les échanges qu'on a avec le jeu, il y a plein de désirs, plein d'attentes qui trouvent des réponses. Bien sûr, sur les versants imaginaires, pour l'essentiel, et non pas sur le versant sensoriel, bien que énormément de jeux, si on garde la dimension du jeu au sens large, se font par le corps lui-même, par nos corps. Hein. On joue avec nos corps de 36 manières, depuis qu'on est bébé jusqu'à la fin de notre vie. Donc, bien que le jeu a des réponses, des attentes, des réponses qui viennent de l'autre pour vivre des moments de plaisir. Les objets entrent dans la vie assez rapidement, mais ils ne sont pas les seuls à constituer le jeu. On a cette tendance de plus en plus à confondre jouer et jeu. Pas du tout les cas. Hein. Les jouets changent, ils ne seront pas les mêmes demain, le jeu sera toujours là, comme dimension indispensable, disons, à la vie. Alors, autre chose qui se passe derrière le jeu, c'est toute cette notion d'attendre son tour, attendre son rôle, sa place, etc. Donc, c'est une notion de frustration qui passe aussi par le jeu. On peut attendre. Donc, on diffère, en quelque sorte, le plaisir et il ne vient pas tout de suite. Puisqu'on a compris qu'il va venir plus tard. Le fait qu'il va venir plus tard, on supporte la frustration, on attend, et dans cette attente, eh bien, on développe énormément de fonctions mentales. On pourrait dire que même toute la scolarité, toutes les formations sont dans cette sorte de perspective d'une attente qui va un jour trouver des réponses agréables. Et tous les savoirs s'acquièrent en quelque sorte dans ce temps d'attente, pour vous, pour nous. Et comme anecdote, de se rappeler que le mot « école » vient d'un mot, d'un substantif d'origine grecque, qui veut dire « scholio », qui veut dire « oisivité ». C'était le temps qui est en dehors du travail, qui est une contrainte. Le travail étant une contrainte pour survivre, dès le début de la vie. Aujourd'hui, ce n'est pas que pour survivre. Mais en tout cas, étant une contrainte pour les besoins, bien dans ce temps de l'Antiquité, on avait du temps, on n'avait pas des écoles, on avait un peu du temps libre entre un temps de travail et un autre qui était obligatoire pour survivre, chercher à manger d'une manière ou d'une autre. Et dans ce temps libre, eh bien, on pouvait s'amuser. Donc, entre jeu et pour jouer, il faut apprendre des choses, parce qu'on ne peut pas jouer toujours les mêmes jeux, il faut apprendre des choses, et plus les jeux sont compliqués, plus ils cultivent le plaisir et l'attente. Eh bien, donc, c'est dans ce temps de scholie, de non-travail, qu'on a commencé à penser. Et on a développé plus tard des structures pour la pensée qui sont devenues les écoles et toutes formes d'écoles. Donc, cette dimension-là de l'attente du plaisir, elle est cultivée particulièrement. L'attente du plaisir et la pensée qu'on développe, elle est particulièrement développée par les jeux. Une autre notion encore liée au jeu, c'est justement ce que tout à l'heure, qui ça ouvre vers des règles, etc. Bien, le jeu étant différent d'un moment à l'autre, et même d'un moment à l'autre de notre vie, hein, on ne joue pas au même jeu constamment, on change. bien, ils ouvrent même vers une histoire de jeu, mais une histoire de la société elle-même, vers donc des notions culturelles qui passent à travers le jeu. Et d'une certaine manière, donc, le jeu ouvre à l'espace social, à l'espace commun que nous partageons tous, et à son évolution même. C'est-à-dire, à travers le jeu, toute une série de notions sociales, etc., sont présentes, mais pas au premier plan. Ces notions pour le jeu, je passe à la notion de l'image, qui est une notion très importante pour la suite de notre propos. Dans une image, au préalable, dire quelque chose qui est important aussi pour notre propos sur la toxicomanie autour de l'adolescence, puisque c'est sous cet angle-là, je pense, que la question est plus présente aujourd'hui. Et on va y revenir. Ah, la vidéo, c'est pas les bébés qui jouent, c'est les ados pour l'essentiel. Et donc, au préalable, à dire deux mots sur une grande proximité, non visible, mais surtout psychique, profonde, entre le bébé et ou l'âge, ou le temps du bébé et le temps de l'adolescence. Ou le bébé, c'est le temps de la naissance, hein, le temps de la découverte par son corps d'énormément de choses, l'essentiel, par les relations, par la perception, par ses mouvements, et de toute la problématique progressive, disons, du bain relationnel qui l'accompagnera pour s'autonomiser. Je résume le mouvement de la vie d'un bébé après naissance. Et pour faire le parallèle avec ce qui se passe à l'adolescence, qui est aussi quelque chose de l'ordre d'une naissance, même si ça paraît un peu caricatural, le nouveau corps qui vient, bien sûr, donc c'est quelque chose comme ça, et surtout la naissance de sortir cette fois-ci non pas d'un ventre, mais d'un cocon, qui est le cocon familial, vers l'espace social. Inexorablement, ce corps grand ne peut plus être traité comme un bébé. Donc on voit, et on est poussé, si on peut dire, même par la biologie, plus que par la biologie bien sûr, de penser que tôt ou tard, on fera les choses tout seul. Pas seulement parce qu'on est poussé, mais parce qu'on le veut, parce qu'on veut réaliser plein de désirs et plein d'envies, et qu'on ne peut pas le faire quand d'autres décident. Donc, on va vers l'espace où soi-même on va décider. Par le mouvement de l'adolescence, qui est donc une problématique de naissance, sur le plan psychique. Alors, si je dis ça, c'est pour dire autre chose. Que, d'une manière complètement imperceptible, ce qu'on a vécu tous, ce qui s'est passé, disons, et qu'on a vécu le premier temps de notre vie, vous savez, tout ne se passe pas très bien, de sommeil, de manger, d'autres choses, des événements familiaux, mais plein de choses qu'on a vécues et dont on n'a plus de mémoire, et même les parents d'ailleurs n'en gardent pas grand-chose, si ce n'est quelques événements majeurs. Toute cette sorte de mémoire inconsciente, disent les psychanalystes comme moi, elle n'est pas perdue et elle n'est pas dans la mémoire non plus. Donc personne s'en souvient. Si ce n'est que dans l'espace psychique, en quelque sorte, elle reste présente. Et avec les débuts de la deuxième naissance et son déroulement pendant l'adolescence, eh bien, toutes ces choses-là sont présentes. Mais elles ne sont pas présentes consciemment. Personne ne le sait. Donc quelqu'un, on peut trouver par exemple, je vous donne des exemples très très schématiques, quelqu'un qui a eu des difficultés de sommeil bébé, eh bien, fort probablement, pas garanti, parce qu'entre-temps, il se passe des choses, il peut changer, bien sûr, mais fort probablement, il va les retrouver à l'adolescence. Quelqu'un qui a besoin de lumière pour dormir, si entre-temps, il a changé, fort probablement, il va les retrouver. Troubles alimentaires, plein d'autres choses. Plein d'autres choses sur cette base, disons, du mouvement de cette deuxième naissance qui est la séparation, l'autonomisation. Voilà, ça c'était juste une parenthèse en fait, cela, pour dire que les questions qu'on va trouver à l'adolescence elles ont déjà eu un premier temps, différemment traité pour chacun, à la petite enfance, mais qui était oublié par tout le monde. Donc si on revient sur l'image, l'image de la petite enfance, elle a une place sur les fonctions psychiques du bébé considérable. Considérable, dans la mesure où les mots ne lui disent pas grand-chose. Donc toute la sonorité à travers laquelle la parole se construit n'a pas beaucoup de... Si, elle a une place importante, bien sûr, mais elle ne transmet pas beaucoup de messages. C'est avec le temps, vous savez, les enfants commencent à parler aux alentours, on peut dire après la première année, ça dépend des précoces et des moins précoces, mais ils rentrent dans le langage plutôt vers un an et demi et plus tard, dans le langage parlé. Bien avant d'entrer, ça veut dire qu'ils ont assimilé des choses. Ils ont commencé à comprendre plus tôt avant de parler, comme ça se passe pour nous quand on apprend une langue étrangère. Mais presque pendant toute la première année, c'est tout un langage qui se déroule d'une manière perceptive. Sonore aussi, bien sûr, mais au sens de perception de signes dont l'organisateur principal, c'est les images. Donc on a ce qu'on appelle, nous, la proprioceptivité, hein, c'est toutes ces notions qui viennent par les sensations, qui nous informent sur plein de choses de nous par rapport à l'environnement, et ces structures autour d'un langage imagé, qui est un langage pré-parole, pré-linguistique. Et d'autres mots plus savants qu'on emploie, c'est la transmodalité. Plusieurs qui s'occupent de cette notion des images s'y réfèrent, et qui concerne cette notion d'articulation, c'est la transmodalité, cette notion d'articulation de différents systèmes perceptifs qui doivent se coordonner pour un petit enfant se donner l'information de ce que c'est qu'un objet à côté de lui. Il le voit, il le sent, il le touche, il réunit tous ces éléments-là pour arriver à se donner une représentation ou une image de ce qui est l'objet et de sa place par rapport à l'objet. Voilà, donc les images sont une sorte de signe, comme un langage de signe. Pas loin du langage de signe qu'on emploie pour les sourds et muets. Si ce n'est que le langage de signe qu'on emploie de sourds et muets, on l'a construit a posteriori pour copier avec des signes la structure de la langue. Donc il est en quelque sorte structuré comme la langue. Par contre, ce langage imagé, il est très proche du langage que nous avons tous tout au long de la vie, par exemple dans les rêves. Nos rêves emploient ce langage des signes, des images. Ce langage-là, du fait donc qu'il ne se réfère pas à la structure de la langue, qui est une structure, comme vous allez l'apprendre, aussi très précise, hein, qui occupe quelle fonction, quelle place, tout est ordonné, tout est coordonné, même s'il y a de petites fluctuations qui permettent justement le poète de créer le romancier avec la langue, mais c'est une structure très solide, la langue. Par contre, cette structure, enfin cette structure, non, ce langage qui n'a pas de structure, justement, autour des perceptions, diverses perceptions, dont la principale est la langue, cette sorte de, on pourrait dire, proche du langage hiéroglyphique qu'utilisaient plutôt les Égyptiens anciens, et qu'utilisent toujours les Chinois. Donc cette sorte de mouvance des signes perceptifs n'ont pas de structure précise. Ce qui fait qu'ils nous maintiennent dans les rêves, nous, quand on le rêvit, et dans d'autres situations, on pourra y revenir. En tout cas, au début de la vie, ou au contact des images, ils nous amènent, nous font vivre cette sorte d'expérience où tout est possible. Cette sorte de signes peuvent se combiner dans un sens et aboutir à une structuration du sens qui veut dire ceci, mais les mêmes signes peuvent se combiner un peu différemment et modifier le sens complètement. Comme si le sujet lui-même, qui est dans ce monde des signes, visuel pour l'essentiel, il a devant lui cette question de qui décide en quelque sorte, dans quel sens les signes vont s'organiser. Et bien sûr, on peut tenter d'être soi-même qui décide. Si ce n'est que, étant donné que c'est un langage, si on décide tout seul, ben on ne communique qu'avec soi-même. Tout de suite, disons, la question qui s'est liée à cela, c'est ce langage, qui d'autre fonctionne à l'intérieur de ce langage? Et la question qui vient automatiquement, dès qu'on est dans cette sorte de pré-langage, dans la régression, parce qu'on peut aussi y régresser, c'est la question de la désignation des places. Qui fait quoi? Qui décide quoi? Pour que ce langage veut dire ceci, qui veut dire cela. Mais dans cette sorte de magma fluctuant et instable. Donc vous voyez bien que si on a tendance à développer plus ce langage à un moment donné, comme on va y revenir avec les virtuels, on va rejoindre cette question du magma instable et du qui décide. Ou qui est présent. Mais gardons cette notion de base parce que notre langue, disons nos langues, parce que toutes les langues, elles sont des superstructures, comme on dit dans le marxisme, de ces sortes d'infrastructures qui sont la construction d'un langage sémantique, un langage avec des signes, avec des perceptions. Donc les images se réfèrent à cet espace-là. À cet espace des signes qui questionne la désignation des places et forcément la nomination de ces places-là, la nomination du sens qui se change et la structuration progressive des signifiants et des signifiants. Voilà, c'était des étapes de cette pensée pour venir de plus près donc du côté du virtuel qui est construit, bien entendu, avec des images, pour l'essentiel, et avec des sons. Hein. Comme forme de jeu, toujours à plusieurs, en principe, et si ça se passe bien, par exemple, j'ai entendu l'autre jour qu'un des jeux que vous connaissez tous, le World of Warcraft, qu'on joue sur ordinateur et sur le net, à plusieurs, il doit avoir à peu près 80 millions de joueurs dans le monde. Je l'ai su après. Là, il y a le jeu, bien sûr, vidéo, et le jeu sur le net. Ça ressemble pas tout à fait à la même chose. Hein? Les jeux vidéo sont dans un espace interactif, bien sûr, hein? Puisqu'on y intervient. Et dans ces jeux vidéo, on est soi-même auteur, acteur, spectateur. On a plusieurs rôles. Dans les jeux sur le net, ça se bascule un peu. Il y a tout cela, mais on a des partenaires. Et ce rôle de partenaire très différent de jeux vidéo sur les consoles. Hein. Donc c'est pas pareil, on y reviendra. En tout cas, par rapport à ce qu'il disait par rapport à l'image, l'espace virtuel donc, dans lequel on entre à travers toutes ces formes de jeux, eh bien, sans qu'on s'en rende compte aussi, on rejoint ce langage dont j'ai parlé, ce langage de magma, en quelque sorte, des signes, dans lesquels on peut faire quelque chose soi-même. Et des auteurs qui écrivent des textes, disons, sur la dépendance vidéo ou sur, sur les images, y compris les bandes dessinées et autres choses, comme Certes Rom, comme Michael Stora et d'autres, ils emploient des termes du style marché de l'image, faire varier le son à l'intérieur de l'image. Cette illusion, disons, que le virtuel facilite de régresser en quelque sorte dans ces fonctions psychiques où on est à l'intérieur de ce langage pré-linguistique, ce langage pré-verbal. Et on est en quelque sorte co-constructeur, ça dépend de nous. Et autrement dit, donc, d'être dans cet espace du rêve. Espace du rêve, car c'est là où ce langage fonctionne, c'est dans l'espace du rêve, de nos rêves toutes les nuits, on fait ce qu'on veut dans nos rêves, personne ne nous interdit de faire ce qu'on veut, et ils sont faits pour ça, de réaliser tout ce qu'on veut. Et si ce n'est que dans cet espace du rêve, la question, disons, qui se développe pour l'essentiel, c'est la réalisation de désirs. Et l'illusion de pouvoir le faire sans dépendre d'autres. Et c'est l'enjeu principal, disons, sur lequel on va revenir autour des addictions. Deux, trois mots sur ces notions donc, de différence dans cet espace virtuel entre le jeu vidéo dans les consoles, dans des jeux prédéfinis en quelque sorte, où on est, comme je disais, joueur, acteur, spectateur en même temps. Et pour l'essentiel, disons, dans ce jeu, ce qui se joue pour le joueur, et l'acteur et le spectateur, c'est qu'il voit en quelque sorte, qu'il fait agir, qu'il fait développer son double à l'intérieur du jeu. Bien sûr, plus de joueurs, que vous pouvez l'être et moi aussi, on ne pense pas à ça, on prend plaisir. Dans le sens qu'à travers le double, on tente de réaliser toutes les notions dont je parlais du jeu. Donc, on lui donne toutes les possibilités que le jeu permet, bien sûr. On donne un autre double qui a souvent, vous l'avez constaté, un rôle héroïque et qui surmonte plein d'obstacles et qui ne meurt jamais. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'autres dimensions qui se mettent en jeu là, mais qui concernent toutes ces notions de jeu, ce n'est pas particulièrement virtuel. Ce qui est un peu différent, semblable un peu différent, c'est dans les jeux dans les nets, dans le web, où tous les jeux. Surtout, je suppose, j'ai parlé tout à l'heure de World of Warcraft, ils ont diverses logiques, Guild Wars, Starcraft, Age of Empires, Dofus, etc., Bozak, Sims, Second Life, quelques-uns d'autres. Eh bien, ils ont de thématiques différentes, bien sûr. Il y a plusieurs qui ont la thématique de stratégies diverses, et pour un grand nombre, des batailles gagnées et des épreuves à surmonter, bien entendu. D'autres, ils ont, comme Second Life, Half-Life, Sims, ils ont de stratégies de. Là, on est plus près du double, mais justement, c'est pas que le double, parce qu'il y a d'autres partenaires, de faire évoluer un personnage qui est un peu sa deuxième vie, Second Life. Soi-même, mais. Comme on le voudrait, comme on peut l'imaginer, comme on peut réussir, et en tenant compte d'autres différents. Vous voyez donc, chaque jeu, les concepteurs de jeux ont un concept, on peut dire, qu'ils mettent en valeur différemment selon la problématique qu'ils évoluent dans le jeu, qu'ils font évoluer dans le jeu. En tout cas, donc, dans ces jeux qui passent par les web, qui passent par le net, entre la question des partenaires. Est une question assez marrante quand on joue, et d'avoir des partenaires qu'on ignore, on ne sait pas qui c'est, il y a un chinois, il y a un canadien, etc., on joue ensemble. C'est la richesse du jeu, ce que je disais tout à l'heure, qui est le jeu, ouvre vers l'espace social. À travers le partenaire, on peut découvrir plein d'autres choses. Voilà. La question peut se poser toujours quand ça peut basculer sur l'usage qu'on peut faire de ses partenaires soi-même, du côté de la question des addictions, et éventuellement sur l'usage que certains partenaires peuvent faire de soi, quand ils peuvent comprendre qu'on n'est plus tout à fait dans le jeu, qu'on bascule sur une dépendance. Et il y a quelques malins qui peuvent le comprendre dans ce jeu-là. Voilà, et ce qu'il dit Serge Tisseron, qui a travaillé sur ces questions aussi, dit justement qu'il est... Alors, bien sûr, parmi ces jeux-là, donc, il y a ces batailles et épreuves insurmontables, où il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que quelqu'un d'autre, il faut accumuler des points, vous savez, on est classé, etc. C'est des vraies armées. Et il y en a quelques-uns qui réussissent mieux que d'autres, et qui deviennent en quelque sorte l'idéal de jeunes qui s'y mettent dans le jeu-là. Si ce n'est que, si on réfléchit un deuxième temps, pour arriver à être dans ce rôle de si performant, ça le jeune ne le voit pas, mais ça demande beaucoup d'heures de jeu. C'est pas juste une intelligence rapide, parce qu'il faut accumuler plein de preuves, etc. Et qui peut jouer tant d'heures de midi à minuit, ce n'est qu'un chômeur. Donc, sans que les jeunes s'en rendent compte, leurs idéaux, en quelque sorte, leurs héros, sont des chômeurs de longue durée, parce qu'il faut de la durée pour réussir tant d'épreuves. Donc, vous voyez les détournements qu'ils peuvent faire ces jeux virtuels, y compris sur la virtualité de vrais chefs et de vrais idéaux, qui sont aussi virtuels. Mais ils sont aussi virtuels, des fois, comme je vous disais tout à l'heure, dans d'autres dimensions, quand ils se rendent compte que quelqu'un vite se découvre, vite devient dépendant, et ils peuvent, juste en venant, j'écoutais des informations pour une fille qui a donné ses coordonnées personnelles, etc., etc., et qui ont compris qu'elle est dépendante. Celui donc qui a utilisé sa dépendance à l'égard du jeu du web, eh bien, il l'a utilisé autrement par la suite. Donc, c'est que la dépendance bascule. Et après, peu importe de l'objet, on peut être dépendant sans du tout avoir de discernement. Donc, voilà l'addiction. Les addictions viennent dans cette bascule, disons, à travers l'espace virtuel, toutes ces fonctions qu'il a, ou quand quelqu'un, assez vite, disons, il arrive à avoir ce besoin, comme je disais au début pour les dépendances ou les addictions, de présence. D'une présence dont il ne peut pas se passer. Et du coup, il va rallonger son temps, autour du jeu, ce qui a comme conséquence de s'absenter de plein d'autres choses, hein, de relations, de vie familiale, de vie avec des amis, etc., etc. Voilà, un signe, disons, que quelque chose commence à basculer, c'est qu'on passe, on s'absente de plus en plus, qu'on devient de plus en plus solitaire, et avec les seuls partenaires, ceux qui sont dans les camps. C'est là où plusieurs disent qu'on est rentré dans l'image. On ne vit qu'avec ces personnages. On n'est plus de l'autre côté. Mais par rapport à cette notion de présence, hein, d'une présence indispensable, qui est remplie, accomplie par un objet, qui a des fonctions spécifiques dans notre cas. Mais ce n'est pas très différent, dans le fond, que quand quelqu'un va utiliser une drogue dans cette fonction-là, ou cannabis, autre chose, pour supporter un temps dans lesquels il ne se sent pas bien. Fonction de présence calmante qui permet de vivre en quelque sorte. Alors le jeune que je rencontre à la maison de l'adolescent emploie les mots quand quelqu'un commence à s'isoler, il imagine toujours sur le versant de ses épreuves qu'il faut surmonter, il l'appelle hard gamer. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc quelqu'un qui est un joueur dur. Un joueur dur, c'est-à-dire qu'il peut rester longtemps. Donc il est toujours sur le versant du héros. Et puis ils emploient un autre terme aussi que j'ai entendu, je l'apprends par les adolescents. Ils emploient le non-life. Je ne sais pas si vous l'avez entendu par ici. Le contrée où je suis, on l'emploie aussi. Donc on passe du hard gamer, donc d'un joueur formidable et héroïque, à quelqu'un qui est non-life, qui n'est plus du côté de la vie. Vous voyez comment ça bascule? Ça veut dire qu'il n'est plus dans des vraies relations, qu'il n'est plus dans des interactions avec les autres. Toutes les interactions ont basculé du côté du virtuel. Alors on peut dire que pour certains, et ce n'est pas une maladie, hein, je n'ai pas une maladie, pour certains c'est cette sorte de temps très prolongé, et des fois même trop prolongé, est un temps dynamique, ce n'est pas du tout une pathologie. Temps dynamique qui le fait être dans la même problématique que j'ai dit au début, à propos du jeu, entre activité et passivité, hein, qui le fait tenter de devenir actif, comme le petit-fils de Freud dont j'ai parlé au début, d'essayer un peu de retrouver une place dans laquelle eux, ils auront l'impression de ne pas être passif, de ne pas subir la vie, de ne pas subir les relations. Ça concerne souvent des ados, cette fois-ci, qui ont beaucoup été nourris à la télé. Et la télé qui a pris ses fonctions de remplaçant des fonctions parentales, ou de consoles très tôt, etc. Donc, qui ont en quelque sorte vécu passivement cette fonction de l'objet écran et image, et qui tentent par ces biais-là de redevenir actifs. Mais comme vous voyez bien, le virtuel est un espace très sensible et très glissant. Donc, on peut basculer vers uniquement l'espace virtuel et avec quelques partenaires des fois qui peuvent le comprendre et l'exploiter autrement. Une notion qui s'est construite donc dans cette tendance de bascule aussi, hein, cette tendance de pouvoir être actif et non pas passif à travers le jeu, de voir son mot à dire, mais son image à dire, on pourrait dire, en l'occurrence, c'est qu'on maîtrise, hein, et qu'il fasse développer cette notion d'un moi un peu gonflé, hein, héroïque, hein, et à trop y croire qu'on est maître du monde. Et on peut, pareil, là, être en décalage très important par rapport à la vie réelle, où on est mauvais élève, où on est mal dans sa maison, dans sa famille, etc. Alors qu'il y a là, on est un personnage où on réussit formidablement bien. Ah oui, c'est une sorte de moi gonflé. Et qui pousse également à éviter toute frustration de la vie réelle. Voilà des signes qui poussent à inquiéter et qui ramènent la question à sa base, telle que je l'ai présentée au début, que toute tendance de dépendance vient à la place d'une relation. Donc ce n'est pas la personne qui est dépendante qui va dire qu'elle est devenue dépendante. C'est ceux qui sont en relation autour, proches ou moins proches, qui s'en aperçoivent que le jeu solitaire prend de plus en plus la place des relations. Voilà, c'est ça à avoir en tête, et on peut tous concerner par diverses personnes proches et par soi-même. Et cet espace du virtuel, avec cette notion donc de tous ces magmas des signes et des messages, est un espace glissant. En ce qui nous concerne, et pour revenir sur ceux qui ont déjà travaillé sur cette notion de soins des personnes qui sont concernées par cette question, dans la maison d'adolescents où je travaille, j'essaie un peu de développer des stratégies, on pourrait dire, de comment approcher les choses. L'une, c'est, comme je l'ai dit au début, que ce n'est pas un ado qui est concerné, c'est la famille. Si cet objet a pris cette place si importante, c'est que, sans s'en apercevoir, toute la famille y a contribué. Personne coupable, mais toute la famille a contribué, et d'une certaine manière, toute la famille est concernée par ces dysfonctionnements. Donc, l'ado lui-même, il est très bien avec son ordi, il n'a même pas besoin de venir à la consultation, et c'est les autres qui comprennent quelque chose va mal, et que nous, on dit que tous vont mal en quelque sorte, sans qu'il y ait des maladies, et il ne faut pas se presser à faire des maladies d'ailleurs, pour arriver à repenser cette sorte de place des objets à la place des relations. Difficulté de partager et de se confier à laquelle l'objet est venu donner une fausse réponse. Hein, comme je disais pour la petite veilleuse du bébé. Voilà, donc une proposition que nous faisons, c'est celle-là. On fait d'autres propositions sur les familles elles-mêmes, hein, d'arriver à jouer ensemble, à retrouver le plaisir du jeu, etc. Il n'y a pas de jeu de discussion intello, de jeux spontanés, de jeux où on prend plaisir tous ensemble. C'est important de retrouver ces états-là. Et on propose aussi, justement, des interactions vivantes, c'est des activités groupales, ou qui visent un peu à faire vivre d'autres interactions que les interactions virtuelles. Car les interactions virtuelles toutes seules, eh bien, elles amènent au non-life, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Et c'est un petit peu là la différence avec ceux qui pensent qu'il faudrait utiliser le jeu vidéo pour soigner ce type de problématique. Je pense plutôt qu'il faut qu'on soit au courant et qu'on connaît même le jeu, les soignants, plutôt qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là. Mais ce n'est pas nécessaire du tout qu'on joue à ce jeu pour s'occuper des personnes qui en ont des problèmes. Voilà une position qui diverse par rapport à celle de quelqu'un qui a écrit sur le sujet, hein, Michael Stora, et qui a écrit des livres, donc vidéo, Sarah Clos, etc., qu'on trouve dans le commerce, qui sont des livres intéressants, dans la mesure où il est à la fois psychologue, à la fois cinéaste. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la vidéo. Donc, à prendre et à laisser. Pas tout prendre, mais personne ne dit la vérité, y compris moi. Merci de votre attention.